C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM.
Vous avez peut-être entendu parler du hashtag Saccage Paris sur les réseaux sociaux. De nombreux citoyens s'élèvent contre la saleté des rues parisiennes, le laisser-aller en matière d'urbanisme, de protection du patrimoine. On peut voir des associations se mobiliser pour tenter d'empêcher la coupe d'arbres centenaires. Notre invité aujourd'hui, Didier Rickner, fondateur et directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, s'intéresse au sujet depuis de nombreuses années. Il prend méthodiquement en photo, documente ce qui apparaît pour lui comme un vandalisme qui enlaidit Paris et il publie la Disparition de Paris aux éditions Les Belles Lettres. Il est notre invité aujourd'hui sur Vivre FM.
Vous écoutez Vivre, c'est épatant
avec Carole Clémence.
Didier Rickner, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que ce que vous dénoncez comme du vandalisme, des dégradations subies par le patrimoine parisien, c'est pas en réalité l'évolution moderne d'une grande capitale européenne ?
Alors, j'espère que non. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on voit ailleurs dans d'autres capitales européennes. Prenons Madrid, par exemple. On pourrait prendre beaucoup d'autres, Londres, etc. N'ont pas du tout la même évolution qu'on voit à Paris, qui n'est pas une évolution qu'on pourrait qualifier de moderne. Certains disent, mais vous êtes contre le modernisme, contre l'évolution. Bah, je ne suis pas sûr qu'il est moderne d'avoir une ville sale, une ville pas entretenue, une ville où on coupe les arbres, une ville où on laisse le patrimoine pourrir. Je ne suis pas sûr que ça soit moderne, ça. Je ne vois pas en quoi ça peut améliorer la vie des Parisiens et en quoi ça pourrait être une chose à célébrer.
Oui, oui, oui. Alors, vous parlez de couper des arbres. Il y a un volet dans votre livre sur l'écologie. Oui. La municipalité parisienne est très portée, en tout cas en communication sur l'écologie. On plante des arbres, on végétalise, etc. Et il y a beaucoup d'associations sur les réseaux sociaux, mais même partout, qui au contraire, disent « Mais non, vous êtes en train de couper des arbres à Paris, c'est catastrophique. »
On commence
Quelle
à se
la réalité.
Bah, la réalité, on commence à se rendre compte que cette mairie, la maire de Paris, se dit écologiste. Hein. Elle ne parle que de sauver la planète, elle n'est même pas capable d'entretenir sa ville. Donc il faut quand même être sérieux deux minutes. C'est-à-dire que cette mairie qui se prétend écologiste, et qui d'ailleurs, Anne Hidalgo, ne peut survivre politiquement que parce que grâce à son alliance avec les écologistes, qui sont d'ailleurs très embêtés. Hein. On rencontre, on en voit même sur Twitter, certains ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils savent que, contrairement à ce qui est annoncé, la ville est l'inverse de l'écologie. La politique de la ville de Paris, c'est l'inverse de l'écologie. Alors, on nous parle de végétaliser. Comme si, à un moment donné, on nous dit, bah, en fait, il va y avoir des arbres partout, de la verdure partout. En fait, Alphonse Allais voulait mettre les villes à la campagne. C'est l'inverse qu'il doit le faire. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'ils font. C'est-à-dire, encore ferait-il cela que ça ne serait pas forcément le parangon. Hein. Ce n'est pas du tout ce qu'il faudrait faire parce qu'il faut des arbres à Paris, il faut des jardins, mais il faut entretenir l'existant, il faut conserver l'existant, etc. Il faut éventuellement planter, mais de manière raisonnée, pas n'importe comment, n'importe où. Or, ils ont par exemple des projets de mettre des arbres sur la place de la Concorde, qui est une place minérale entre deux jardins, d'ailleurs, que je rappelle, entre les Tuileries et entre les Champs-Élysées, qui est encore une partie un jardin, dans cette partie-là en tout cas. Oui. Ils ont le projet de planter des arbres devant les façades de Gabriel, ce qui est un non-sens historique, architectural et culturel complet. Donc, ils ne comprennent pas bien ce que c'est qu'un arbre. Ils croient qu'on... Voilà. Et non seulement cela... Mais donc, effectivement, ils coupent des arbres. C'est-à-dire qu'on ne leur pas nous dire qu'on va végétaliser Paris. Moi, je prends dans mon livre des exemples. J'en ai mis également sur Twitter pas mal avec un hashtag qui s'appelle « Déforestation urbaine ». Si vous allez voir ceci, vous verrez des photos avant-après. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'Anne Hidalgo a un ennemi, c'est quand même Google. Google Streets, et avant-après, toutes ces vues de Google Earth permettent de voir ce qui se passe avant et après. Et là, on voit qu'effectivement, Paris... Les arbres disparaissent dans Paris. Pas seulement les arbres individuels qui, on nous dit que quand on coupe un arbre, c'est parce qu'il n'est pas en bon état. Ça peut arriver certaines fois. Sauf que je sais que Christophe Dadjowski, l'adjoint qui se charge de tout ça, a dit qu'il y avait 1,5% des arbres chaque année qui étaient coupés parce qu'ils étaient malades et que c'est normal que c'est ce qu'on trouve ailleurs. Et qu'on les remplaçait systématiquement. Ça n'est pas vrai. On peut voir toujours, grâce à Google Street, on peut voir qu'ils ne sont pas remplacés systématiquement. J'en prends quelques exemples dans mon livre. Et puis, il y a des ensembles entiers, des jardins privés sur lesquels on va construire, sur lesquels on va bétonner. Des jardins aussi qui ne sont pas privés, sur lesquels on va mettre des HLM. Mais on va construire énormément sur des endroits qui étaient arborés, avec beaucoup d'arbres. Par exemple, dans le 16e arrondissement, pas très loin du bois du bois de Boulogne, il y a tout un ensemble qui a été coupé et on a construit dessus trois bâtiments. Cet ensemble est plus grand que la place de Catalogne, où on nous dit qu'on va construire une forêt urbaine. C'est-à-dire que les forêts urbaines, qui étaient vraiment une forêt urbaine, c'était un bout du bois de Vincennes, en fait, qui était resté derrière à l'intérieur de Paris, qui a été complètement saccagé, et on a construit la place. Et donc, au lieu de faire des forêts urbaines, qui est un concept absurde, eh bien, on détruit ce qui existait déjà et qui sont avec des arbres anciens. Il faut savoir qu'en plus, quand on coupe un arbre sans nécessité, pour faire du bétonnage, et qu'on le remplace par un petit arbre, c'est pas du tout pareil écologiquement parlant. C'est-à-dire que le petit arbre, il sera grand arbre dans 20, dans 30, dans 40 ans. Or, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de ces arbres. Donc, c'est vraiment une catastrophe écologiste qui se passe à Paris. On pourrait prendre des Allemands, mais je crois que on viendra sur le sujet, sur les tours, qui sont l'anti-écologie.
On va en parler.
Objectivement, la mairie de Paris est l'inverse de l'écologie. Et elle communique tellement bien qu'elle se vante de temps en temps d'avoir un prix international. C'est-à-dire que les gens qui ne vivent pas à Paris, des gens qui sont à New York, à Londres, je ne sais pas, qui vivent dans une espèce de bulle, se disent « c'est formidable, elle nous parle d'écologie sans arrêt, c'est la ville la plus écologique possible ». Mais qu'ils viennent voir à Paris, qu'ils regardent, qu'ils lisent mon livre, qu'ils regardent sur Twitter, et ils verront que c'est l'inverse qui arrive. Et je dois dire que je suis un peu fatigué de voir que les faits n'ont plus d'importance dans plein de domaines, hein. Les faits n'ont plus aucune importance. Et donc, celui-ci est un exemple. C'est-à-dire que Paris est l'inverse de l'écologie. On voit encore des gens qui disent que c'est de l'écologie.
Oui, et alors vous citez plein d'exemples dans ce livre. C'est très documenté. Évidemment, il y a des photos. Il y a la glycine de Montmartre, la célèbre glycine dont on a beaucoup entendu parler dans les médias.
Oui, ça a été un déclencheur d'ailleurs de...
Alors c'est une glycine qui était centenaire.
Alors c'est une glycine qu'on dit centenaire, je ne sais pas si elle avait 100 ans, 80 ans, 120, je ne sais pas. C'est une glycine qui était très importante du point de vue pour les habitants du coin, pour les touristes qui pouvaient aller sur la brasserie qui est ici, à Montmartre. Ils pouvaient dîner sous la glycine, quand elle était en fleur, etc. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, des militants d'ailleurs d'une association écologiste, d'association qui s'occupe d'écologie, ont découvert que on avait coupé la glycine sans prévenir personne, sans prévenir même les propriétaires de la brasserie, etc. On n'avait prévenu personne. Alors ça fait un scandale parce que, alors il y a des gens qui disent, dont ces gens-là, les propriétaires qui disaient c'était en fait elle était en dormance, c'est-à-dire qu'il y avait des bourgeons, elle allait et d'autres qui disent qu'elle était morte. Alors prenons les deux cas parce que maintenant c'est impossible de le savoir,
oui,
puisqu'elle est détruite. Donc, soit elle était morte, et ils ont montré par des photos, etc., qu'en fait, si elle était morte, c'est parce qu'elle n'avait pas été bien entretenue, et surtout, c'est qu'ils avaient bétonné, enfin, ils avaient pavé la place, donc elle avait un vrai problème. Donc, peut-être qu'elle est morte, mais c'est pas sûr du tout, parce que le diagnostic qu'on a demandé, qu'on a eu au bout de plusieurs mois, ce diagnostic, non seulement il était complètement succinct, mais en plus, il parlait d'un arbre avec un nom latin qui était celui du marronnier. Donc soit ils confondent, c'est n'importe quoi.
Oui.
C'est-à-dire que soit c'est un faux, peut-être, s'ils l'ont fait après, soit ils sont complètement plantés. Mais en fait, ça a été décidé comme ça, sur un coup de tête, ils n'ont jamais pu prouver que cette glycine était morte.
Alors le propriétaire qui était à côté de cette glycine, qui connaissait bien cette glycine,
disait que... Oui, ça, et tout le monde. Et alors,
il y avait des
effectivement, il y avait moins de feuilles, etc. Mais alors je ne connais pas exactement le cycle de la glycine, mais beaucoup ont dit à cette période-là, c'était normal.
Oui.
Donc voilà, alors après, il y a eu plein de photos qui sont parues, de la glycine avant, après, etc. Mais on ne saura jamais la vérité puisqu'elle a été détruite. Maintenant, si elle était morte, il ne fallait pas la couper. Ça, je peux vous le garantir parce que j'ai demandé aux meilleures personnes, j'ai demandé à un des plus grands jardiniers que je connais, quelqu'un qui connaît vraiment ça, il a dit qu'il ne fallait pas la couper. Il fallait planter une nouvelle glycine et laisser le tronc mort. Elle se serait enroulée autour et tout de suite, ça aurait fait assez rapidement l'impression que c'était une glycine ancienne. Alors évidemment, ils ont tout coupé, donc maintenant, ils ont planté une petite glycine qui va mettre 10, 20, 30 ans, 40 ans à retrouver la taille qu'elle avait. Ce qui est délirant. Et si elle n'était pas morte, c'est encore plus grave. C'est-à-dire que si elle n'était pas morte, ils ont coupé quelque chose, un arbre, et pour rien.
Mais pourquoi, on sait pourquoi ?
Mais parce que je pense, alors, ça c'est aussi un de mes propos, c'est que depuis 20 ans, et j'ai interrogé des personnes aussi qui sont de la mairie de Paris, qui ne peuvent pas parler évidemment ouvertement, depuis 20 ans, on va à l'économie, on engage moins de... Enfin, à l'économie, c'est pas vrai. On engage beaucoup de personnes, mais pour les travaux, il y a beaucoup moins de... On a des gens qui ne sont pas forcément compétents, on a des gens qui sont... les compétences se perdent. J'en prends un exemple, par exemple, sur les géomètres dans les rues. Et ça, si vous voulez, on pourra y venir. C'est-à-dire que dans les géomètres dans les rues de Paris, quand il y a de l'eau, quand il pleut, on voit que l'eau s'accumule partout. Et maintenant, il y a même des rues entières qui sont sous l'eau. C'est incroyable.
Oui.
Eh bien, ça, c'est parce qu'on ne sait plus faire des rues avec des pentes comme il faut pour que l'eau s'évacue vers les... caniveau et ensuite qu'elle s'évacue dans les égouts. Et ça, c'est les géomètres qui font cela. Et là, j'ai un terminologue intérieur de la ville de Paris, il dit, bah, il n'y a pratiquement plus les compétences nécessaires. Pour les arbres, c'est pareil. Moi, j'ai entendu dire, alors je n'ai pas plus enquêté de cette manière-là, mais j'ai entendu dire en interne que les services qui s'occupent des arbres, bah, ils ont moins de compétences qu'avant. Alors, il y a des gens très compétents, certainement, mais ils sont plus suffisamment nombreux, parce qu'il y a beaucoup de gens à la mairie de Paris, mais beaucoup de gens à la communication, etc. Mais dans les services vraiment techniques, il y a moins de gens. Je prends, par exemple, l'exemple une des rares choses qui, à mon sens, fonctionne à Paris, ce sont les gens qui s'occupent des monuments, des restaurations, etc. Et pourtant, c'est dans un état lamentable, parce qu'ils travaillent très bien quand ils peuvent le faire, quand ils ont les moyens de le faire, mais ils sont très très peu nombreux.
Et puis il y a tellement de choses à préserver.
Il y a tellement de choses, mais ils sont très très peu nombreux. Ils sont, par exemple, les conservateurs, le service de la COARC dont je parle, et qui est une très bon service, une quinzaine, je crois, je l'ai dit dans mon livre, je crois que c'est à peu près 15, alors que la communication de la ville de Paris, ils sont 400, 500, je ne sais plus.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme. Alors, le chiffre exact est dans mon livre. Là, je veux dire que là, je ne me rappelle plus exactement le chiffre exact, mais c'est énorme.
Oui,
il y
a une priorité sur la communication.
Il y a une priorité sur plein de choses qui ne sont pas essentielles. Et tout ce qui est essentiel, c'est-à-dire, en fait, une ville doit être entretenue, doit être nettoyée, doit être restaurée pour les habitants. Ce que je dis dès le départ de mon livre, c'est que ce n'est pas... Tout ça, ce n'est pas politique. Moi, je me fiche que ça soit... Moi, j'avais voté, ce que j'ai dit à l'époque, j'avais voté, je n'étais pas très satisfait de Chirac-Tibéri. En 2001, j'avais voté Tibéri, pensant qu'il y aurait peut-être un changement. Très vite, j'avais déchanté, parce que très vite, ça s'est parti un peu à volo. Anne Hidalgo n'est pas au pouvoir depuis 2014, bien sûr, mais depuis 2001 ou 2002, puisqu'elle était la première adjointe en charge de l'urbanisme.
Vous aviez voté Delannoy, c'est ça?
J'avais voté Delannoy, voilà. En 2001. C'est pour dire que je ne suis pas... politiquement en train de dire il faut absolument que... Enfin, je roule pour personne. Hein. Je ne suis pas un nostalgique de l'ère Chirac ou de l'ère Tibéri, qui était d'ailleurs au XXe siècle, ça fait quand même assez longtemps. Ça fait 20 ans qu'ils sont... Et on a vu les choses se dégrader d'une manière terrible. Donc, voilà.
Alors, je fais un petit aparté, mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu mieux ne pas avoir de maire de Paris et rester sur un préfet qui gérerait la ville?
Je ne sais pas si le préfet est mauvais, il gérera peut-être la ville très mal. Non, moi je suis pour qu'on ait un maire de Paris, il n'y a pas de raison que Paris soit une ville sans maire, mais il faut d'abord que la maire de Paris ou le maire de Paris soit élu vraiment au suffrage universel. En ce sens, c'est un suffrage universel bien sûr, mais c'est pas un suffrage direct. C'est-à-dire que c'est un peu comme aux États-Unis, ici on élit des élus qui vont élire le maire de Paris. C'est-à-dire qu'on ne vole pas directement pour le maire de Paris. C'est un vrai problème, ne serait-ce que parce qu'il y a des arrondissements, comme aux États-Unis il y a des swinging states, vous savez, des états dans lesquels il faut gagner 3, 4 ou 5 états et on est sûr de gagner la présidence. Ici, si on gagne le 14e, Paris 100, enfin, je crois qu'il y a un certain nombre, en tout cas le 14e c'est sûr, c'est très important parce que bah, ça envoie beaucoup d'élus. Eh bien, il y a quelques arrondissements, si on les gagne, on est sûr de gagner. Donc ça, c'est un des éléments de réponse qui fait que on ne vote pas directement. Enfin, la maire de Paris a été élue, certes, elle n'a pas été très bien élue, elle a été élue, mais il n'est pas normal qu'à Paris, Lyon et Marseille, c'était une magouille qu'avait fait, je crois, à l'époque Gaston Defer, c'est des magouilles électorales. Il n'est pas normal que Paris ne puisse pas élire son maire directement.
Effectivement, oui.
Ça, c'est scandaleux et il faudrait qu'on puisse le faire pour la prochaine élection. Mais je crains qu'on n'en prenne pas le chemin.
Oui, bon, on va continuer à en parler, Didier Reckner. Je rappelle le nom de votre livre, La disparition de Paris aux éditions Belles Lettres. On va parler de ces arbres en pot, vous avez des photos dans votre livre. On va parler des tours à Paris également.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
La disparition de Paris, c'est le titre du livre de Didier Reckner aux éditions Belles Lettres. On parle du saccage de Paris, on parle d'atteinte au patrimoine, on en parle donc depuis 13 heures. Alors on parlait d'écologie, la mairie de Paris communique beaucoup sur l'écologie en disant qu'ils plantent des arbres, qu'ils végétalisent. Et vous dites dans votre livre, oui mais on plante des arbres en pot, on en a un très laid en page 102 de votre livre, je crois. C'est un pot immense.
Tout à fait, oui, c'est dans la gare du Nord.
Voilà.
J'aurais pu en prendre plein, hein, d'exemples. Il y en a, je sais pas, moi, près de mon bureau, il y a la place des Victoires. Il y en a devant la Fontaine Saint-Michel, qui est quand même un des plus beaux monuments de Paris. Enfin,
oui.
C'est magnifique. Et ben, il y a des arbres avec des pots. Il y en a près du Panthéon. Donc je suis désolé, mes arbres en pot avec tes pots moches.
C'est moche, c'est très moche.
On colle dessus des affiches dedans, ça sert de cendrier, ça sert de poubelle, les arbres vivotent dedans, c'est n'importe quoi.
Et oui, et alors on se sert de ces arbres en pot ou des toits végétalisés.
Oui. Alors j'en parle pas dans mon livre d'ailleurs, c'est un point, je pourrais presque faire un tome 2 parce qu'il y a tellement de choses dont j'ai pas parlé, mais dans les codes de construction, les POS, COS, vous savez, coefficient d'occupation des arbres, maintenant on peut couper des arbres et puis replanter des arbustes sur un toit d'un immeuble qu'on construit, et ça compte pour une partie de ce qu'on a, pour compenser une partie de ce qu'on a détruit.
Oui.
C'est ahurissant. C'est-à-dire que on dit il doit y avoir tant d'arbres sur une parcelle, et bah c'est pas grave, on va les planter sur le toit. Enfin, c'est n'importe quoi.
Oui. Et alors, vous dites, il y a un déficit. On coupe beaucoup plus qu'on ne plante.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, on a fait un calcul. C'est compliqué de savoir, mais il y a quand même des suivis il y a des bases de données sur la ville de Paris qui sont pas mal faites, qui avaient été faites par Bertrand Delanoë. C'est très utile finalement. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'elle doit peut-être regretter. Mais en fait, ils avaient dit par exemple qu'ils allaient planter 170 000 arbres pendant 6 ans.
Oui.
C'est-à-dire depuis cette mandature. Il faut savoir qu'on a compté par rapport à, grâce à cette base de données, ça fait en fait depuis un an, il y a 1000 arbres qui ont disparu. Et
oui,
ça se voit, c'est beaucoup 1000 arbres, alors qu'on doit en planter 170 000. Alors, ils ont trouvé une chose formidable, c'est les forêts Miyawaki. Alors, les forêts Miyawaki, en deux mots, c'est une technique qui est due à un japonais, Miyawaki, qui est de planter plein d'arbres, de petits arbustes très serrés sur une surface. Alors, ça peut aller jusqu'à 1500 arbustes sur, je sais pas, moi, sur 200 mètres carrés. Enfin, c'est n'importe quoi, ou 2500. Enfin, c'est vraiment énorme. Et donc, ça, ils comptent ça comme des arbres plantés, en pensant que ça va pousser, sauf que non. Sauf que même les écologistes, par exemple, le journal Mon Confrère Reporter a fait un article très complet sur ça, pour expliquer, bah non, ça n'a jamais été prouvé que ça marchait dans nos climats. Ça marche peut-être dans les climats tropicaux, etc., mais pas du tout dans nos climats. Et il y a eu plein d'études là-dessus. Et donc, demain, rien ne subsistera. Donc, on dit qu'on a... Donc, dans les arbres, ils vont compter 1500, 2500 arbres en plus. Et en fait, non.
Oui. Et donc, il y a un déficit de verdure, d'arbres.
Voilà. Ils font ça le long du périphérique, parce qu'il y a là. Donc, et récemment, ils ont encore communiqué sur 2500, je crois, je ne sais plus combien d'arbres plantés. Mais c'est complètement pipeau. Ils racontent vraiment n'importe quoi. Et l'important pour eux, c'était qu'on les croit. Mais depuis un ou deux ans, depuis Ça cache Paris, avec le livre, etc., on commence à se rendre compte de l'énorme imposture que c'est.
Oui, alors, vous me disiez, les élus écologistes de la mairie parisienne ne sont pas forcément contents, mais ils ne disent rien. Est-ce qu'il y a des mouvements écologistes qui protestent ?
Alors oui, alors le problème, c'est que tout d'un coup, je ne me souviens plus de c'est France Nature et Environnement à Paris, si je ne dis pas de bêtises, tout d'un coup, j'avais un doute, qui proteste pas mal. Il y a SOS Paris qui s'occupe de patrimoine, mais le patrimoine, si vous voulez, moi je m'occupe de patrimoine, mais le patrimoine historique et le patrimoine écologique, ça va ensemble, ça ne devrait pas être opposé l'un à l'autre, souvent on les oppose l'un à l'autre, moi je trouve ça très très grave. Donc SOS Paris se bat contre ça, sites et monuments, par exemple sites et monuments et SOS Paris, sites et monuments beaucoup, il y a un couvent de la Visitation à Paris qui doit être bétonné. Avec des arbres, avec des jardins, etc. En plus, historiquement, c'est important. Donc, tout cela va ensemble. Oui, donc, il y a des gens qui se battent contre ça, oui. Moi, je regrette que les écologistes, ceux qui se prénomment écologistes, ceux qui se nomment écologistes eux-mêmes, font en fait... à Paris, l'inverse de l'écologie.
Oui.
Voilà, donc c'est assez grave.
Oui, et alors, le patrimoine, il y a beaucoup de choses qui sont déconstruites, qui ne sont pas respectées, des bâtiments anciens qui ne sont
pas abîmés. Ah bah, il y a énormément. Par exemple, prenons un exemple. Le patrimoine, ce qu'il faut savoir, c'est que le patrimoine, ce n'est pas uniquement les grands monuments. Ce n'est pas uniquement la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Certains imaginent que le patrimoine, c'est cela. Or, le patrimoine, c'est aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire les bâtiments anciens qui ne sont pas forcément suffisamment importants au point de vue artistique pour être protégés monuments historiques, mais qui doivent être protégés comme un ensemble. C'est pour ça qu'on a créé, qu'à l'époque, Malraux a créé les secteurs sauvegardés, qu'ensuite, il y a eu les zones de protection ZPPAUP qui étaient un mini-secteur sauvegardé, qu'il y a les abords des monuments historiques sont protégés. Toutes choses, d'ailleurs, qu'il faut le dire, sont très attaquées en ce moment, par le gouvernement qui a fait une loi il y a quelques années, la loi Elan, ça c'est Emmanuel Macron qui est éminemment responsable, où la protection du patrimoine ne cessait d'être renforcée en France, et à condition qu'on l'applique, c'était très bien, on ne l'appliquait pas toujours malheureusement, mais maintenant les lois sont beaucoup moins fortes, et on voit, alors je ne sais pas si à Paris on a vu ce cas-là, mais en tout cas dans beaucoup de villes de province, et j'ai pris l'exemple récent de Foix ou de Saint-Florentin, où on a des architectures, des maisons du XVIIe, des maisons moyenâgeuses, etc., qui ne sont pas excessivement belles, mais qui sont intéressantes, parce qu'elles font partie du tissu urbain. Une ville, ce n'est pas uniquement les grands monuments, encore une fois, c'est tout ce qui va avec. Autrement, on aurait rasé le marais comme on voulait le faire, et on n'aurait conservé que quelques monuments. Il faut bien comprendre ce que c'est que le patrimoine. Eh bien, on détruit, on peut les détruire maintenant, il suffit qu'un architecte ou qu'un expert, entre guillemets, dise à la demande du maire ou de que le bâtiment est en péril ou insalubre, et on peut le démolir même contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Alors je connais pas de cas à Paris, mais en fait c'est un peu la même chose quand même, hein. C'est-à-dire qu'à Paris on détruit beaucoup de maisons qui ne sont pas en elles-mêmes des chefs-d'œuvre, mais qui sont des maisons des faubourgs, des maisons à 2-3 étages, des maisons en pierre ou en crépi, et des maisons qui donnent un charme. Hein, c'est tout. Quand on se balade dans Montmartre, une grande partie des maisons dans Montmartre ne sont que des maisons, des petites maisons sans grande importance architecturale, mais dont l'ensemble fait l'importance.
Il y a un charme, il y a une harmonie.
Or à Paris, on détruit énormément comme cela, des maisons qui ne devraient pas l'être, et on construit à la place, et on bétonne. Donc la mairie de Paris non seulement coupe des arbres pour bétonner, mais elle détruit également beaucoup, ou elle laisse détruire, parce que c'est pas toujours elle, des fois ce sont les promoteurs, mais elle laisse détruire, elle donne l'autorisation alors qu'elle pourrait ne pas le faire, elle pourrait protéger. Il est dommage par exemple qu'à Paris, il n'y ait que deux secteurs sauvegardés. Il faut savoir que les secteurs sauvegardés, c'est-à-dire qu'on conserve, quand la loi est appliquée, malheureusement, on s'aperçoit qu'elle n'est pas toujours appliquée, mais il y a le Marais, et il y a une partie du 7e arrondissement.
Ce sont les deux seuls secteurs protégés.
Les deux seuls secteurs sauvegardés. À Paris, il n'y en a pas d'autres, alors qu'il y a plein d'endroits, il y a plein de quartiers qui devraient être secteurs sauvegardés.
Bien sûr.
Et ça a toujours été. Jamais Paris n'a voulu accepter. Et en tout cas, ils ne veulent pas accepter de faire des nouveaux secteurs sauvegardés parce que ça les enquiquinerait pour débétonner. Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas de nouveaux secteurs sauvegardés? C'est quand même incroyable. L'île Saint-Louis. Parce que l'île Saint-Louis, il faut savoir que les secteurs non sauvegardés, il faut savoir qu'à l'intérieur des monuments, des bâtiments, vous avez des décors. Les décors ne sont pas protégés, les intérieurs ne sont pas protégés. Donc il faut savoir qu'actuellement, à Paris, mais ça c'est dans toute la France, on peut détruire, en tout cas à Paris beaucoup, parce qu'il n'y a pas de secteur sauvegardé. Donc le secteur sauvegardé, on voit également ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments. Donc l'intérieur également est protégé. Comme il n'y a pas de secteur sauvegardé à Paris, si on n'a pas classé ou inscrit spécifiquement l'intérieur du bâtiment, le décor, eh bien par exemple, j'ai un ami qui habite du côté de l'Opéra, et il est dans un immeuble du XVIIe siècle. Il a conservé, lui, parce qu'il aime ça, il a conservé, il y a des décors, 18, enfin, c'est des boiseries 18e, etc. C'est magnifique,
eh oui.
Mais ça n'est absolument pas protégé. Et dans cet immeuble, dans l'immeuble où il est, c'est le seul décor qui a été conservé. Et demain,
ses
si
voisins n'ont rien conservé.
Non. Et demain, ces boiseries qui sont objectivement du niveau de l'inscription, au moins, sinon du classement, eh bien demain, s'il vend, on peut faire tous les travaux qu'on veut à l'intérieur. Et ça sera détruit. Et c'est ce qui se passe aussi à Paris. Il faut savoir qu'à Paris, on détruit beaucoup à l'intérieur des bâtiments et on ne sait même pas ce qu'on perd.
Et on ne peut rien faire. On ne peut pas les protéger. On ne peut pas demander l'inscription.
Bien sûr. Alors, bien sûr, mais la plupart du temps, les gens ne le demandent pas, l'inscription, oui. Parce que ça va les barber. On pourrait faire des secteurs sauvegardés dans ce coin-là. Je prends un autre exemple du côté du parc Monceau. J'ai des amis qui avaient un immeuble, un appartement. Et dedans, il y avait une salle de bain art déco. Uniquement ça. Je crois qu'ils l'ont vendu. Je crois que ça a certainement été cassé parce que tout ça n'est pas protégé. Il faut savoir que, mais c'est pas seulement à Paris, mais à Paris où il n'y a pas de secteur sauvegardé ou très peu, il y a que deux secteurs sauvegardés. Eh bien, les intérieurs sont très très menacés et souvent sont détruits.
Oui, oui. Et alors, on parlait de ces bâtiments qui sont détruits. Il y a des choses, beaucoup de bétonisation à Paris et des tours.
Ouais. Alors, les tours, c'est une vraie catastrophe pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça, une tour, ça peut être beau une tour, hein, je ne dis pas le contraire. À New York, il y a des tours qui sont très belles, il y en a qui sont moches aussi, mais New York est une ville qui a une tradition de tours. Enfin, je veux dire, on va à New York pour voir les tours.
Voilà, c'est ça.
On vient pas à Paris pour voir des tours. On voudrait que toutes les villes se ressemblent. Or, Paris, comme Rome, ce sont des villes sauf les clochers, etc., qui sont des bâtiments historiques et puis qui objectivement viennent animer le paysage. Les tours, elles se voient très loin. Elles sont rarement belles, en plus, à Paris. Enfin, il y en a quelques-unes qui sont belles, peut-être à la Défense, mais sinon, elles sont rarement belles. Elles viennent comme un... Et là, par exemple, on va nous construire la tour Triangle, qui est un scandale absolu. Un scandale absolu, déjà, sur le plan financier, puisque le parquet financier a ouvert une enquête. Donc, on n'attend même pas que ça soit terminé. On commence à construire avant même de savoir s'il n'y a pas un problème. Donc, cette tour, elle commence à être construite. Elle va être vue de la place de la Concorde. Elle va être vue d'un peu partout dans Paris. Le tribunal de Paris a été construit par pourtant un bon architecte, Piano, si je ne dis pas de bêtises. C'est Renzo Piano qui a construit le tribunal, qui est plutôt un bon architecte d'habitude. Mais là, c'est trois boîtes en les unes sur les autres. Et ça se voit de plein d'endroits. Les tours se voient de loin. Déjà, c'est un vrai problème. Deuxièmement, est-ce que les Parisiens veulent des tours? Delanoë avait fait une enquête, pas un sondage, mais c'était une espèce de référendum sur les tours. Est-ce que vous voulez des tours ou non? Les Parisiens avaient dit non. Ah bah c'est pas grave, on va les construire quand même. Donc on construit des tours.
Oui.
Donc c'est anti-écologique, ça tout le monde le dit. C'est-à-dire que c'est extrêmement coûteux en énergie, en construction. Le coût de la construction est énorme au point de vue écologique. Enfin c'est, tout ça est dramatique.
Et puis ça gêne beaucoup les voisins, c'est vraiment
ça gêne en plus les voisins. C'est-à-dire si on est à côté d'une tour, on n'a pas envie d'être à côté d'une tour, évidemment. Les tours, c'est une catastrophe, sur tous les plans. Eh ben non, on les construit. Et alors récemment, Emmanuel Grégoire, l'adjoint au maire, le premier adjoint de la maire de Paris, a dit finalement on va arrêter parce que ça... enfin on arrêtera, mais et puis alors, il dit ça et puis après oui on arrêtera sauf ponctuellement. Bah, attendez, heureusement que déjà on ne le fait que ponctuellement, comme si on ne faisait pas aujourd'hui des tours que ponctuellement. Oui. Il voulait quoi Donc en fait il n'arrête rien.
Donc notre triangle, elle va être construite, on peut rien y faire.
Tous les jours, elles avancent. Donc,
ouais.
Je crains qu'on. Et puis, en plus, en France, on est dans quelque chose de quand même formidable, c'est que il y a des recours devant les tribunaux, etc. Et des fois, les recours sont gagnés, mais c'est trop tard. Soit c'est construit, soit par exemple récemment au Neubourg, on a détruit toute une allée d'arbres centenaires, etc. Les associations s'y opposaient, sont allées en justice, on a coupé, et là ils viennent de gagner.
Mais oui, qu'est-ce
qu'on fait ? Ils ont gagné, qu'est-ce qu'on fait ? C'est terminé. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des victoires à l'Épirus parce que la justice n'attend pas quand les associations, d'ailleurs, ont le droit d'y aller, parce que de plus en plus aussi, on limite le droit des associations à attaquer en justice. Donc tout va, enfin, il y a vraiment une... Parce que, n'oublions pas que la ville de Paris est responsable, mais l'État la laisse faire, largement. Moi, je me demande où sont passés les architectes des bâtiments de France à Paris. Parce que à Paris, partout, vous avez des... Alors, il n'y a pas malheureusement suffisamment de secteurs sauvegardés, mais il y a des monuments partout. Donc, il y a beaucoup d'endroits qui sont protégés quand même dans Paris via les abords. Alors, pas les intérieurs dont je parlais, mais au moins les maisons sont protégées, etc. Mais qu'est-ce que font les architectes des bâtiments de France ? Je suppose que les pauvres, ils sont en train de se battre comme ils peuvent. Hein. Je ne jette pas forcément la pierre, parce que derrière, il y a le préfet qui vient leur dire « faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça ». À Paris, l'État laisse faire n'importe quoi. Il n'est pas normal qu'on laisse Paris gouverné par Anne Hidalgo dans cet état-là. Alors, il y a des gens qui demandent effectivement la mise sous tutelle de la ville de Paris. Je ne sais pas ce qui se passera après les élections, mais sur le plan financier, ça le mériterait. Sur
plein de plans, plusieurs milliards de déficit, hein, c'est ça.
Le déficit est monstrueux. Oui, on en est à 10 milliards, certainement plus.
De déficit.
De déficit, oui. Et en plus, on ne compte même pas là-dedans le fait que la ville de Paris se fait payer en avance les loyers des sociétés HLM. C'est-à-dire que c'est les sociétés HLM qui vont être obligées de s'endetter parce qu'elles doivent payer en avance des loyers qui ne touchent pas. Donc, ils s'endettent. Mais comme c'est des sociétés HLM qui dépendent de la ville de Paris, voilà. Donc, tout ça est dramatique. Vraiment, la disparition de Paris, c'est vraiment, je l'ai écrit, parce que je n'en peux plus, et beaucoup de gens n'en peuvent plus. On est vraiment... C'est insupportable de voir cela.
Oui.
C'est insupportable de voir cela, et surtout, tous les éléments que je donne, personne n'est capable de le discuter. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de débat vraiment... j'ai voulu les rencontrer, évidemment, avant de faire
pour
ce livre.
Oui.
J'ai pas pu du tout le faire, j'ai envoyé des questions, j'ai pas eu de réponse. Et ils racontent n'importe quoi, et on les laisse dire. Et on les laisse faire, surtout.
Oui. Et est-ce que vous pensez que, alors vous, bien sûr, les associations de défense du patrimoine, de défense de l'environnement, luttent contre ça et sont bien conscientes du problème. Est-ce que vous pensez que les Parisiens s'en rendent compte ?
Alors, j'espère que les Parisiens commencent à s'en rendre compte. Je pense, oui, parce que depuis un peu plus d'un an, depuis que le hashtag « Saccage Paris » a été créé, pas par moi, je le regrette, mais par quelqu'un que je ne connais pas d'ailleurs, hein, qui a rencontré certains journalistes, et donc qu'on peut rencontrer, hein, c'est pas du tout anonyme, c'est simplement, il veut se protéger, parce que voilà, c'est un citoyen, mais on peut très bien le retrouver, qui sait. Il a créé cela, et depuis qu'on emploie cela, avant on tweetait chacun de notre côté, maintenant ça permet de retrouver facilement tout ce qui concerne Paris. Donc ça... Ben maintenant, il se passe rarement une semaine sans qu'il y ait une émission de télévision, une émission de radio comme celle-ci. Dans la presse, on parle de tout cela. Donc je pense quand même que ça a joué. Je pense que ça joue aussi sur le fait que Mme Hidalgo n'est pas très bien placée dans les sondages, parce que les gens, quand même, à Paris, ils savent un peu ce qu'ils vivent. Et puis en province, ils doivent regarder un peu ça de loin en se disant bon, on n'a pas très envie de voir ça chez nous. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte.
Oui.
Alors moi, autour de moi, oui, les gens se rendent compte parce que je leur montre, j'en parle, et puis voilà. Mais je suis pas sûr que dans la rue, si on demande aux gens, ils se rendent peut-être pas compte, je ne sais pas.
Oui. Ouais. On va continuer cette émission avec vous, Didier Reckner. La disparition de Paris, c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Belles Lettres, un ouvrage très documenté sur ce qui se passe actuellement à Paris.
Vous écoutez Vivre c'est épatant avec Carole Clémence.
On parle de Paris et du saccage de Paris, c'est le hashtag sur les réseaux sociaux. Mais même avant ça, Didier Reckner a commencé à écrire son livre La disparition de Paris aux éditions Belles Lettres. Didier Reckner, fondateur de la Tribune de l'Art, qui nous a parlé d'écologie, de tous ces arbres qui sont coupés, qui nous a parlé du patrimoine urbain qui n'est pas respecté. Il y a aussi le mobilier urbain, alors on ne va pas en parler, mais dans votre livre, il y a de nombreux exemples du mobilier urbain qui disparaît en fait.
Bon, qui est laissé à l'abandon avec des scotch. Le scotch est un des grands outils de la mairie de Paris pour rafistoler les feux qui tombent en morceaux. Oui, quand les lampadaires sont étêtés, etc. Tout ça est laissé sans entretien.
Tout ce qui avait une image un peu haussmannienne, tout ça, ça disparaît.
Exactement. Bah oui, alors on nous dit la ville de Paris ne vit pas du tout, on s'en occupe, etc. Bah on attend de voir.
Voilà. Et alors, on peut retrouver tout ça dans votre livre, c'est très bien documenté, La disparition de Paris, Didier Reckner. Je voulais qu'on parle d'un autre sujet qui ne dépend pas de la municipalité parisienne, c'est Notre-Dame.
Oui.
Et cet incendie, et oui. Puis la reconstruction. Alors,
La restauration. La reconstruction, c'est le président de la République qui dit ça dès le départ, mais c'est une restauration. C'est pas, on ne reconstruit pas Notre-Dame, elle s'est pas écroulée.
Alors, il y avait des projets pour reconstruire, pour faire un petit peu de contemporain dans cet édifice médiéval.
Non, ça ne sera pas. Il fallait. Alors, il y a l'intérieur, les aménagements intérieurs qui sont encore. Il y a encore des problèmes sur les aménagements intérieurs, mais extérieurement, non. C'est-à-dire qu'on va restaurer la cathédrale comme on devait le faire. Les rives de la Seine sont classées au patrimoine mondial. La cathédrale est classée avec la flèche de Viollet-le-Duc. Il fallait restaurer cette cathédrale qui n'avait pas disparu. En plus, on peut le faire sans aucune hypothèse. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment c'était. On peut le refaire sans problème. Donc, elle va être restaurée, heureusement.
Donc ça va être fait.
Oui, bien sûr, c'est en train d'être fait. Les travaux ont commencé déjà.
Voilà. Alors, est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il y a
non, tout va pas bien. Non, tout va pas bien. Moi, je suis très inquiet, par exemple, sur les abords de Notre-Dame. Et ça, on retombe sur le pied et sur Anne Hidalgo, parce que faut savoir que la ville de Paris avait promis 50 millions d'euros pour la cathédrale. 50 millions d'euros, on n'avait pas vraiment besoin, puisqu'il y avait déjà beaucoup d'argent. Mais n'empêche qu'au lieu de les mettre, par exemple, sur les églises, la restauration des églises, elle a repris sa parole. Les 50 millions, elle ne les donnera pas. Et finalement, elle va être sur les abords. Les abords, qui de toute façon, sont de son rôle, puisque ces 50 millions, elle va les mettre pour faire quoi ? Eh ben, je suis très inquiet, par exemple, pas trop sur le parvis, où je pense que ce sera à peu près... ils ne vont pas faire de gestes, ils ne vont rien faire sur le parvis, je pense, j'espère en tout cas. Mais derrière, sur le square Jean 23, qui est un magnifique square, un des rares squares qui était bien entretenu par la mairie de Paris, qui maintenant sert de base-vie pour le chantier, donc il est fermé, et voilà. Mais demain, il va falloir absolument le restaurer comme il était. C'est un square historique qui a été créé sous Louis-Philippe. En parfait état, il était en parfait état. Il faut le remettre dans son état. Il faut surtout pas faire ce que veulent faire. Je sais pas ce qu'ils veulent faire d'ailleurs. Ils ont lancé un concours. Il n'y a pas besoin de concours pour remettre en état et pour restaurer un endroit historique. Donc là, je suis très inquiet pour cet endroit, l'ancien jardin de l'archevêché qui maintenant s'appelle le square Jean 23.
Oui, et alors tout ça, c'est ce que vous dites dans votre livre, c'est la volonté de réinventer Paris, parce que Paris, Madame Hidalgo considère que ça ne doit pas être un musée, ça doit bouger, ça doit évoluer.
Je ne sais pas ce qu'elle considère que ça doit être, mais elle considère que tout Paris doit être fait à son image. Elle veut réinventer Paris. Paris n'a pas besoin d'être réinventé. Ce sera peut-être la conclusion, je ne sais pas. Paris n'a pas besoin d'être réinventé, Paris a besoin d'être restauré, nettoyé, entretenu. On n'a pas besoin d'Anne Hidalgo pour réinventer Paris, surtout que quand on voit ce qu'elle réinvente, en général, c'est quand même très, très, très raté.
Oui, et alors, on parlait de la saleté des rues hors antenne. Vous qui êtes parisien, vous constatez que les rues sont de plus en plus sales.
Alors, la saleté des rues n'est qu'un des éléments, et ce n'est pas les éléments les plus importants. On voudrait souvent réduire Saccage Paris, le mouvement Saccage Paris à la saleté. La saleté, ce sera facile demain s'il y a un nouveau maire ou s'ils prennent conscience de ça, de nettoyer. Mais Paris est une œuvre d'art complète et quand un tableau est sale, on le nettoie, on le restaure. Si une ville est sale, on la nettoie. C'est normal. Et si on a encore le temps, je ne sais pas. Moi, j'aimerais dire quelque chose qui est insupportable, c'est d'entendre les Parisiens sont sales. Alors, plusieurs choses. D'abord, si on disait les Polonais sont sales, les Arabes sont sales, ça choquerait et ça serait choquant.
Oui.
Ça serait extrêmement choquant. Je ne vois pas pourquoi les Parisiens, en tant que tel, serait sale. Moi, je suis parisien depuis toujours. Non, je ne jette pas mes papiers dans la rue. Alors, bien sûr, il y a des Parisiens qui sont sales. Il suffit d'avoir 10% de Parisiens qui sont sales et ça suffit pour salir Paris. Est-ce que ce sont les électeurs ? Parce qu'elle était élue avec 13% des élus. Je ne dirais pas quand même que ce sont les électeurs de Mme Hidalgo. Mais bon, après tout, on pourrait dire très bien. Moi, je pourrais dire que c'est 13% des électeurs qui salissent la ville. Je ne le dirais pas parce que ce n'est pas le cas, évidemment. Mais les jardins parisiens, il y a quelques jardins qui ne sont pas gérés par la ville de Paris, les Tuileries, le Palais Royal, le Luxembourg, eh ben, les jardins sont bien entretenus, ne sont pas sales. Et pourtant, ce sont les mêmes Parisiens qui y vont. Dès que vous passez le périphérique, il y a beaucoup de banlieues de Paris qui sont propres. Dès qu'on passe le périphérique, et pourtant, c'est exactement la même population qu'à Paris. Donc arrêtons de dire que les gens sont sales. Simplement, il faut nettoyer. Vraiment ?
Vous pensez que les entreprises de nettoyage font
non,
pas
Non, je pense
leur
que
boulot,
c'est, tout ça est mal organisé, encore une fois. Ils mettent beaucoup d'argent. Alors, elle dit qu'elle veut encore mettre beaucoup plus d'argent pour le nettoyage. Je rappelle qu'à Paris, on est les trois seules villes en France, les autres sont anecdotiques, à payer une taxe de balayage. Et moi, je fais le calcul dans mon livre. Et si on avait une taxe de balayage qui était utilisée pour balayer, eh bien, on aurait un balayeur tous les 500 mètres dans les rues de Paris. En permanence, même en tenant compte des congés. Eh bien, ça suffirait pour nettoyer Paris.
Oui.
Ils sont où ? Et on n'aura pas besoin de mettre tout ce... Donc, vous voyez, c'est très mal organisé. J'explique aussi pourquoi les poubelles, par exemple, sont très mal organisées. Par exemple, dans ma rue, dans le deuxième arrondissement où j'ai mes bureaux, à partir de 2h de l'après-midi, on a les poubelles dans les rues et ils passent à 6h pour les ramasser. C'est invraisemblable. Avant, ça se faisait le matin. Alors, pas trop tôt pour que les gens dorment, mais à 7h, 8h du matin, il faut faire ça. Dans certains endroits dans Paris, ça s'est ramassé le matin. Et ça ne doit pas rester 4h dans la rue. D'ailleurs, on n'a pas le droit de le faire, mais comme ils ne disent rien, comme ils ne viennent pas. Donc pendant 4h ou 5h, tout l'après-midi, en plein cœur de Paris, dans le deuxième arrondissement, dans les endroits les plus touristiques de Paris, on a les poubelles dans la rue. C'est invraisemblable.
Oui, et puis il y a des gens qui ont besoin de fouiller dans les poubelles pour vivre et qui ressortent des choses.
Plus,
enfin, ça devient sale.
Voilà, et plus, bon, si on regarde aussi les fausses poubelles que j'appelle des préservatifs géants, excusez-moi, mais ces espèces de plastique ou qui pendouillent, qu'on ne vide pas, qui se percent, etc. Plus les rats, etc. Enfin, bon.
Avec les corbeaux.
C'est insupportable, quoi. Vraiment, j'aime Paris, j'adore Paris, c'est ma ville. Et je ne la reconnais pas.
Donc il faudrait changer au niveau de la municipalité.
Il faudrait, oui, je pense qu'avec cette municipalité, c'est pas possible. Mais je ne dis pas que c'est les uns ou les autres. Je suis même pour qu'une nouvelle offre citoyenne. Il y a pas mal d'endroits en France où il y a des villes. C'est souvent des petites villes où il y a des villes qui sont apolitiques. Moi, je demande pas que ça soit une. On n'a pas besoin de politique. On n'est pas chargé de faire la politique de la France. Hein.
Oui.
Une ville, on a besoin d'entretenir. Donc, il y a pas. On suit les lois de la République et on entretient, on restaure, etc. On n'a pas besoin d'être un grand politique pour cela. On a besoin juste de gens qui aiment leur ville. Je voudrais des gens qui aiment leur ville et qui n'ont pas envie de la réinventer.
Oui, oui. Merci à Didier Reckner d'être venu nous parler de la situation parisienne. La disparition de Paris, c'est le titre de votre livre, aux belles lettres. Un dernier mot avant de conclure.
Un dernier mot, bah, c'est ça. Je terminerai sur ça, sur un espoir que le problème, c'est que Anne Hidalgo va avoir 1,5%, 2%, elle va peut-être passer sous Jean Lassalle, enfin, c'est quand même assez amusant. Demain, elle va revenir à Paris parce qu'elle va être encore maire de Paris pendant 4 ou 5 ans. Hein.
Oui.
Et ça, c'est dramatique. Hein. Donc, je pense que malheureusement, mon livre a encore pas mal d'actualité et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde comprenne qu'on ne peut plus continuer comme ça.
Oui.
Et que dans le pire des cas, dans 4 ans, on se débarrasse de cette municipalité. Et peut-être qu'avant, il faut continuer à lutter. Démocratiquement, évidemment, hein, pour que on ne continue pas dans cette politique et dans cette voie qui nous mène vraiment à la catastrophe.
Oui, oui. Merci Didier Reckner, merci d'avoir merci participé et nous avoir informés.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.